bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Bande originale avec Léa Cadon, Agnès et Estelle, bonjour, Daniel Morin,
hey, bonjour Agnès,
Albert Algoum, tout à l'heure Tanguy Pastureau et nos invités Justine Hénin et Mickaël Yodra.
Bravo, bonjour. Bravo.
Évidemment, deux champions de tennis, mais paradoxalement, c'est en tant que professionnel de France Télévisions que nous vous invitons et pas en tant que champion de tennis. Ceci étant, on va rappeler Justine, et bonjour,
d'ailleurs, bonjour.
Merci de venir
bonjour.
À ce
merci
micro.
De nous inviter.
On va rappeler que vous avez remporté Roland Garros.
Quatre fois, oui. J'ai un petit doute.
Elle ne le sait même plus.
On m'a dit 3, 5, je les ai toutes entendues en fait depuis quelques jours,
dépend,
mais c'est 4.
Ça ouais. dépend si on compte junior ou pas.
Exactement. Alors ce serait 5. Ouais.
Voilà. Il y a eu un titre junior ouais. qui doit être d'ailleurs peut-être pas le plus important, mais quand on est junior et qu'on gagne Roland Garros, ça met une pression supplémentaire quand on devient senior. On se dit, je l'ai déjà gagné une fois, je sais ce que c'est.
Non, pas vraiment, parce que ça faisait partie du chemin, quoi. Mais il faut savoir que moi, Roland Garros, j'avais 6 ans quand j'ai commencé à regarder télé. Et puis c'est là que j'ai décidé que je voulais devenir une championne et que je voulais gagner comme Steffi Graf, parce que c'était mon idole.
Ouais, ouais.
Et donc dans la chambre de notre appartement familial, je me jetais sur le sol de ma chambre et je levais les bras au ciel comme si je gagnais Roland. Et je répondais aux questions des journalistes.
Génial.
Et donc c'était la totale.
Déjà Fabrice Santoro à l'époque, ce qui n'est pas facile. Hein,
déjà.
Il était en fin de carrière.
Justement, les rêves de gamin, comment Mickaël Yodra, vous avez eu envie d'être joueur de tennis?
Moi, Stéphane Edberg, hein, c'était le jeu à l'attaque, à outrance.
Donc c'est toujours l'identification à
ouais,
à un
quand
joueur.
On est jeune,
ouais.
J'imagine qu'on a un modèle. Et c'est puis, voilà, moi j'étais parisien, donc je venais chaque année à Roland-Garros et je me souviens à 11 ans l'avoir vu perdre en finale contre Michael Chang, c'était terrible.
Mais alors, ce qui est bizarre, c'est que par rapport au caractère, au tempérament que vous avez et lui, c'est quand même le chaud et le froid. C'est pas vraiment...
J'allais le dire,
bah oui,
ouais,
c'est pas le même. Hein.
Il était un peu plus sobre quand même.
Ouais, j'avais 9 ans à l'époque, j'étais sobre.
À 9 ans, il était sobre. Depuis ouais, l'alcool.
Je l'ai connu peu après. Et,
l'alcool coule déjà.
Il a toujours été un jeune fou quand même hein, sur les cours.
Ouais, c'est vrai que j'ai vite progressé comme ça après.
Il s'était émancipé. On va donc parler évidemment de ce tournoi de Roland Garros qui me paraît. Alors je ne sais pas. Est-ce qu'on peut parler de cuvée? Tiens, puisqu'on parlait de vin à l'instant, Justine Hénin, est-ce que c'est une bonne année?
C'est un grand Roland Garros déjà parce que Roland Garros a grandi. Roland Garros, voilà, s'est rénové aussi et je trouve ça particulièrement réussi. Il y a le retour de Roger. Il y a un tableau masculin qui est d'un niveau exceptionnel.
Changé,
et puis
ouais.
Chez les filles, bon, on en parlera. C'est vrai que c'est plus difficile parce qu'il y a plein de jeunes joueuse. Alors, oui. ça attire la curiosité, mais c'est vrai que je trouve que le tennis féminin a besoin aussi de noms et de vraies personnalités, aussi de vraies rivalités, quoi, de filles qui sont toujours là au rendez-vous. C'est ce qu'on a chez les hommes, mais voilà, il y a un côté découverte qui me paraît intéressant aussi.
Elle emploie le terme de rivalité, évidemment, c'est au sens compète du terme. Est-ce qu'il y a une amitié possible entre ces grands noms? On pense à Djokovic, Nadal, Federer. Ils peuvent être potes ou c'est
quoi? C'est compliqué. On reste dans un sport individuel, hein. Donc,
ouais.
Dans les vestiaires, ça peut arriver d'échanger, mais malgré tout, voilà, c'est les plus grandes confrontations.
Ils partent pas en vacances ensemble.
Non, ils vont pas partir.
À mon avis, ceux-là, non.
Ouais, mais non. Après, il y en a certains, on peut être pote avec plein d'autres gars du circuit, étrangers. Après, il y a une telle rivalité entre ces joueurs, vous vous rendez compte, on parle de trois joueurs qui sont sans doute en train d'écrire l'histoire du tennis.
Sur plusieurs décennies.
Exactement, ouais. À la même période. Moi, je suis inquiet quand ces trois joueurs vont arrêter. On est dans une ère où c'est fabuleux, mais...
Est-ce que la relève est là?
Ouais, mais en termes de charisme, c'est incroyable. On a Nadal qui a gagné 11 fois Roland Garros, Federer, 22 titres du Grand Chelem, c'est quand même extraordinaire. Sans parler de Djokovic, qui est aussi là et qui montre la voie, quoi.
Et pourquoi ils ne pourraient pas être amis? Parce que ça viendrait quoi? Rendre les rencontres ultérieures difficiles? Ou ça, psychologiquement, pour un champion,
déjà,
faut pas sympathiser avec l'ennemi?
Il y a beaucoup de rivalité.
Moi, j'aurais pas pu, mais j'ai eu très peu de... Ouais, j'ai eu vraiment une amie sur le circuit.
Et pourquoi?
Qui ça?
Nathalie Dechy. Ouais, on a été très très proches quand on était sur le circuit ensemble. Et puis, mais c'est la manière dont moi je l'ai vécu, quoi, un peu dans ma bulle. Et puis c'est vrai que quand on rentre sur le terrain, c'est un tel combat que je trouve ça compliqué. Par contre, il y a un respect qui est immense, hein, entre les joueurs dont on parle, ou bien voilà, moi dans ma génération aussi.
C'est un sport fait de respect.
Oui.
C'est-à-dire que clairement, on le voit que de reconnaître qu'une balle est vraiment pleine ligne ou qu'elle est, même si maintenant la technologie.
Ouais, c'est filmé
vient,
en même temps, tu peux pas trop
c'est
mentir.
Filmé. Non, mais j'ai toujours trouvé moi une espèce d'élégance.
Enfin, oui, il y en a qui attendent pas qu'il y ait la vidéo ou l'arbitre qui descend,
oui,
qui
c'est
donne
ça.
Le point.
Ouais.
Je sais pas, vous avez vu la fin du match hier entre Wawrinka et Tsitsipas?
Quand il y a deux fois, il y a eu
Sur la balle de match, quand même.
Il s'est énervé.
Il essaye quand même de lui.
Ouais.
Ah oui, oui, oui.
Lui carotter la balle. Oui, on n'a pas parlé parce que le match est exceptionnel.
Si il
entoure une marque en disant qu'elle est faute. Il montre bien ses faits de raquet machin. Et puis, bon, Vavrinka n'est pas très sûr d'ailleurs quand on regarde.
Mais on veut tellement qu'elle soit dehors que.
Pour que ça dure.
Tu manques un peu d'objectivité, quoi.
Et se fait siffler par le public d'ailleurs.
Ouais, alors après, la dramaturgie du match fait que, voilà, c'est fabuleux, mais bon, voilà, c'est vrai qu'on a quand même vécu un match extraordinaire.
Pour ceux qui n'ont pas suivi, ça a duré pratiquement 5 heures.
5 heures, 5 heures.
Sous un cagnard d'enfer.
À 30 degrés, au soleil, en même temps, ils jouent au soleil, vivement qu'ils se mettent à l'ombre avec un toit qui se ferme. Et puis, ça, c'est allé au bout du bout du bout du bout, c'est-à-dire que même lorsqu'il y avait le 5ème set, 5-5, 40-40, enfin, tout était l'égalité poussée à l'extrême. Ça se joue à quoi, ce genre de match? L'expérience, l'un à 20 ans, l'autre en a plus.
Ouais, ça se joue à la maîtrise des nerfs, hein. Vraiment le mental et l'expérience. Et là, c'est clair qu'on était là-dedans, quoi. Tsitsipas, il a été en mesure de terminer ce match à maintes et maintes reprises.
25 balles de break. Ouais, c'était
C'était vraiment dingue.
9 balles de break au 5ème set.
Il était fougueux. Et puis en face, il y avait Stan, qu'on adore voir jouer à Roland-Garros, qui est un joueur magnifique. Et c'est ça qui est génial.
Il y a juste des gros problèmes de frein, quoi. Juste, il faut qu'il trouve des couleurs raisonnables.
Il y a eu pire qui se passe.
L'année où il a gagné, c'était pire. Quand même encore, quoi. Mais
un short qui est parti aux enchères à un prix phénoménal d'ailleurs, c'est pour l'anecdote.
Non, c'est vrai qu'il avait fait fort. Quoi,
on va parler donc avec
son équipementier, mais bon.
Avec ces grands champions, Justine Hénin et Mika Iodra, que France Télévisions a recruté et a bien fait pour parler et commenter le tennis sur leurs antennes, joue un tout petit peu. Justement avec Justine et avec Mickaël. On va commencer par Justine. Qu'a dit un enfant en voyant tous les trophées de Justine Hénin exposés dans le club de son enfance? Justine était à côté, l'enfant a fait un commentaire en voyant tous les trophées.
Est-ce qu'elle était vendeuse de trophées?
Elle a triché.
Ça vaut cher.
C'est tout?
Non.
C'est du ski.
Est-ce qu'ils sont à toi?
C'est bien pire.
Tu m'en donnes un ou deux?
C'est à ton père.
Moi j'en ai plus à la maison.
Tu les as achetés?
Non.
Tu les as volés?
C'est pire, non. C'est moche.
C'est pire, c'est moche.
C'est moche.
C'est des vases?
Non.
Elles sont les fleurs.
Elle est pas loin.
Elle est morte.
Exactement.
Je n'osais pas la dire. Je l'avais depuis le début et je me dis que je dis
il a dit elle
horrible.
Vit encore, Justine.
C'est bien.
C'est-à-dire
que ça fait un choc.
Non, mais il y en avait tellement. C'est ça, j'imagine, impressionné par la quantité.
C'est tellement mignon, c'est tellement mignon. Je les ai toutes eues, hein. Dans mon académie, il y a un gamin qui demande à son papa pour « je voudrais un autographe de Justine Hénin », le papa l'amène près de moi, mais non, pas de la madame qui travaille ici, celle qui est sur les photos.
Ah, oh là, ça c'est méchant. Donc...
Et après on dira que les enfants sont intelligents.
Direct.
Lors d'un match à l'Open d'Australie en 2002, Mickaël Iodra a fait un coup qui est resté extrêmement célèbre, mondialement célèbre. Pourquoi?
La balle, elle est tombée sur quelqu'un.
Elle l'a pas loin.
Il a éborgné.
Un ramasseur de balles,
a
shooté un arbitre,
assommé.
Il a tué un arbitre.
Et il a tué
un enfant.
Non.
Un pigeon, vieux. Pigeon, oui, le pigeon, je me souviens de l'image. Ouais. Oh, c'était terrible.
Et en demi-finale du double contre des Français, d'ailleurs, contre Arnaud Clément et Julien Boutère.
C'est vrai.
Et alors j'ai sauvé le papillon, hein, parce qu'il faut savoir que le petit rondel chassait le papillon. Et voilà, moi je suis
un choisir.
Ah ouais.
Donc voilà, donc, c'est un truc extraordinaire quand même.
Tuer un oiseau.
L'oiseau sur le central, boum. Mort sur le coup, séché.
Petit moment de solitude.
Nouvelle carrière à la mairie de Paris pour les pigeons. Tu vois, il y a un truc à faire.
Moi, j'étais dans le match. Hein, j'ai demandé si j'avais gagné le point.
Vous l'avez mangé?
Non. On l'a enterré après le match. Ouais, c'est assez cocasse. Je pense que c'est jamais arrivé sur un court tennis, quoi, de toucher un oiseau.
Mais c'est-à-dire que faut rappeler quand même que les balles que vous envoyez, elles vont à 200 km/h. C'est-à-dire que ça ne peut pas.
Ouais, alors là, c'était un coup droit. Moi, c'est pas mon coup fort, donc ça ne devait pas partir à 200. Mais puis on était à 2-2 dans le troisième set. Ça devait être un peu tendu, à mon avis.
Ça suffit.
J'étais très précis après.
Pauvre hirondelle. Quelle approche psychologique Justine Hénin a-t-elle travaillé pour avoir un mental de gagnante?
Yoga.
La méditation, hypnose,
sophrologie,
une thérapie,
psychanalyse.
Le shit.
Alors, c'est.
Non.
Je sais pas si c'est du domaine du yoga ou de la méditation. Non, c'est plus, oui, c'est la méditation. Moi, je mettrais plus à ça. Ouais.
Sophrologie,
la prière.
La confiance
oui,
en soi sur.
Exactement, exactement.
La visualisation.
Positive.
Positive, ouais.
Positive. C'est-à-dire se voir. avant un match, se voir en train de le gagner.
Ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup utilisé. Je suis une nature très très anxieuse, et donc Pete Sampras disait « Celui qui n'a pas peur en montant sur le court ment ». C'est vrai qu'on est tous pris par beaucoup de stress, et plutôt que de me focaliser sur mes peurs, j'essayais de voir les choses bien faites. Quoi. Donc je me voyais faire des coups gagnants, monter au filet, serrer la main de mon adversaire en ayant gagné.
Dépenser l'argent du tournoi.
Ouais, exactement, voilà tout ça. Oh, tout ça, j'y pensais pas trop, moi, mais c'est vrai que ça permet, voilà, de contrer un peu ses peurs.
Mais alors, quelle est la frontière justement entre avoir confiance en soi en disant je vais gagner, je me vois en train de gagner, et la suffisance, la prétention en disant
Il y en a aussi qui parfois ressentent ça, mais ouais, c'est vrai que c'est, alors comme c'est pas de nature chez moi, c'est quelque chose que j'ai dû tellement travailler que ça me manquait, donc moi j'avais pas de risque de basculer de l'autre côté. Mais c'est vrai qu'on voit parfois des, enfin ça a dû m'arriver aussi, des excès de confiance où on se dit là il peut rien m'arriver aujourd'hui, ou quand on mène sur le court, et, ouais, et voilà, de penser que voilà, il va rien se passer. Et finalement, un match tourne très très vite, ouais, hein, parfois sur
une balle.
Des
journées où on a des sensations de dingue, et pas comprendre pourquoi, tu sens que t'es seul sur le terrain, tu voles, et
ça, c'est
là-bas,
le corps.
Tu la vois plus.
Ouais,
c'est difficile à expliquer, hein, presque.
Est-ce qu'il y a des moments où vous avez le sentiment que physiquement, le corps répond exactement à ce que vous souhaitez, c'est-à-dire que le moindre mouvement, la moindre accélération voulue, demandée, le contre-pied, vous le
moi,
gérez.
Je sais pas pour toi, mais en tout cas, ça arrive très peu souvent. Finalement, tu te réveilles le matin et tu sens que voilà, la mécanique est là, les premières frappes de balle, c'est parfait, et voilà, où tout s'enchaîne bien, voilà, le match.
Ça arrive.
Évidemment que ça arrive. Enfin, on travaille pour ça. Après, le tennis est fait de plein d'incertitudes, déjà par rapport à l'adversaire. Il peut y avoir aussi l'arbitre. Donc, c'est vraiment à chaque fois un travail sur soi-même qui est hyper important.
Alors, comment gérer le doute? Comment gérer le doute, mais pendant un match? Je ne parle pas du doute qui peut venir avant le match en se disant est-ce que je vais gagner, je vais perdre, mais comment gérer pendant les matchs? On voit des joueurs qui ont besoin soit des... La porte est fermée, c'est une bonne nouvelle.
Ouais. Soit c'est Fabrice Abgral.
Il est chez lui, de toute façon, Fabrice. Soit des gris-gris, soit des regards permanents à des coachs. On peut en parler avec Gaël Monfils et Liam Smith. C'est ça, son nouveau coach. Oui. Anglais, on a le sentiment que ce monsieur-là a changé quelque chose chez Gaël Monfils.
Oui, non, ça c'est sûr. Bah, la connexion au coach, ça c'est personnel aussi à chacun. Il y en a qui sont très détachés, qui sont totalement autonomes.
Certains, mais moi, c'était non-stop. On change
sur l'aspect des coachs. Ouais. Moi, j'ai gardé le même 15 ans. Donc, oui, c'est vrai que c'est surprenant parce que pour trouver un minimum de stabilité, mais une relation avec son coach, je trouve, c'est vraiment, c'est une relation comme toute relation qu'on investit et qui demande un peu de temps pour trouver cette confiance. Et voilà, on le dit souvent, c'est une vraie rencontre. Mmh. Et donc, quand on a besoin d'aller chercher ça pendant le match, en tout cas, moi, c'est vrai que c'était quelque chose que je faisais beaucoup. Et puis, rester dans l'instant présent, je trouve que ça, c'est quand même une clé, quoi. Parce que si on voit des joueurs s'énerver pour un fait de jeu, finalement, on dépense beaucoup d'énergie pour rien à ce moment-là.
Les joueurs n'ont pas le droit d'être coachés pendant le match.
Ça, c'est, non, mais on l'est tous, hein. Je veux dire, oui, officiellement, on n'a pas le droit.
On n'a pas le droit de parler.
On n'a pas le droit de parler.
Ah, maintenant, sur le circuit féminin, vous avez accès au coach.
Pas sur les grands chelems, ouais, quoi. Effectivement, sur le circuit, dans les tournois WTA, le coach peut venir une fois pendant le set et puis à la fin du set pour échanger avec sa joueuse.
Est-ce qu'il y a des codes, il y a des signes que s'échangent les coachs avec les joueurs du style joue plus sur son revers, joue plus sur le côté droit?
Après, il y a des regards qui ne trompent pas, puis après, des signes de la main. Ouais. Voilà, moi, je savais très bien que quand je perdais un petit peu de terrain et que j'étais un peu moins agressif, je savais très bien que j'avais de grandes chances de perdre. Donc forcément, quand il... juste un petit geste de la main me montrait que voilà, reste dans le terrain. Quoi. Reste dans le terrain, quitte pas la ligne, parce qu'effectivement, après, t'as tendance à être un peu aspiré du fond. Et
jamais une pancarte, voilà, jamais une pancarte pour vous indiquer.
Ça commence à être
un peu voyant.
Il faut savoir qu'il y a des grosses amendes, hein, pour coaching.
Mieux.
À partir du moment où l'arbitre nous met un avertissement pour coaching, il faut être bon pour se défendre derrière, parce qu'il y a des grosses amendes.
T'en as pris, toi, Mickaël?
Non, j'en ai
une
bien.
Fois, moi. Oui.
C'est une amende pour coaching.
Avertissement. Ah, j'ai pris un avertissement. À l'époque, c'était un peu plus calme, mais oui, c'est pas le top.
Ça calme.
C'est dissuasif par rapport à ce qu'on peut gagner financièrement, parce que la limite.
Pour Justine, ça a l'air. Moi, c'était un peu plus dur. Fallait défendre. Je savais que j'allais perdre sans doute une semaine en vacances. Voilà, c'était dur. Hein.
Quel est le point commun entre Mickaël Iodra et Thierry Henry?
Gaucher.
Ils viennent du même endroit.
Ils sont nés le même jour.
Non.
Les Henri, cheveux, Thierry Henry.
La taille, exactement le même poids, même taille.
Les cheveux.
Je sais pas.
Thierry Henry.
Il a pratiquement plus de cheveux.
Ils sont parrains ensemble de quelque chose.
Ils ont la même épouse.
Non.
Ils sont nés dans un endroit proche, enfin, même endroit.
Ils sont devenus alcooliques.
C'est un rapport avec un endroit.
Ah, ils vont en vacances au même endroit.
Non.
Ils sont mariés au même endroit.
Non.
Ils sont mariés ensemble.
Ils veulent être enterrés au même endroit.
Non. C'est dans leur carrière sportive.
Ah, ils ont été formés, centre de formation, il n'y a pas un truc proche.
Non.
Carrière sportive.
Ouais.
Ils ont démarré
ils ont remporté quelque chose.
Je vais vous aider, c'est dans leur carrière sportive et il y a un lien lointain avec Justine Hénin.
La Belgique.
Ils ont commencé en Belgique.
Oui. Ils ont commencé en Belgique.
Non.
Ils ont gagné leur premier tournoi
non.
en Belgique.
Ah, oui.
Ils ont fini en Belgique.
Ils vivent en Belgique.
Non.
Ils sont mariés à une Belge.
Qu'est-ce qu'ils ont avec la Belgique?
Bon, bah, il y a eu un truc sportif en Belgique.
Ah, ils ont fait des infidélités, on peut le dire.
Fiscalement, ils sont domiciliés en Belgique.
Un coach
ah, ils ont la nationalité belge.
Un coach belge.
Ah, ouais. Voilà, ils ont coaché l'équipe belge.
Ah, ils ont coaché.
Chacun dans leur sport respectif. Thierry a été adjoint, je crois. Thierry Henry a été adjoint pendant le mondial. Ce qui a donné des scènes assez ubuesques sur le bord du terrain quand ils se croisaient avec.
Surtout qu'ils ont joué la France.
Surtout
c'est pas gentil de le rappeler, ça.
Si, gentil de le rappeler, vu le résultat, on peut le rappeler.
Parce qu'ils ont perdu. Je suis un peu la seule Belge ici. Donc
c'est bien d'avoir fait demi, quand même, pour la Belgique.
Et vous, Mika, vous avez entraîné l'équipe de Coupe Davis?
Ouais, pour la finale, ouais. C'était un one shot, hein. C'était juste pour la finale. C'est vrai que c'était contre les Anglais. Et voilà, je suis très proche de certains joueurs et voilà, ils m'ont demandé une petite d'apporter mon expérience, notamment sur le point du double qui était capital. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir, en tout cas, à travailler avec les copains.
Ça démange pas. Comment on sent quand on est. Ouais, ça démange pas quand on est assis et qu'on voit les autres.
Très honnêtement, la Coupe Davis, moi, c'est sans doute la compétition qui m'a fait le plus rêver, qui m'a passionné. Les premières images qui me viennent à la tête, c'est 91, la victoire de l'équipe de France contre les États-Unis à Lyon, avec un Henri Lecomte exceptionnel, Guy Forget aussi. Et c'est ce qui m'a donné envie de jouer, de représenter mon pays.
On n'était tellement pas fair-play, faut être honnête. Hein. J'étais dans le public, on n'était pas fair-play. C'est-à-dire, dès que les Américains perdaient une balle, il y avait une ovation de tout le public.
Ça remontait, hein. c'était les mousquetaires qui avaient gagné la Coupe Davis avant.
C'était incroyable. Mais avec le recul, on n'était pas.
C'était Sampras et Agassi.
Et les numéros 1 mondiaux en double.
Ouais.
C'est pas rien, quoi. Donc voilà, c'est les premières images et voilà, quand on. J'aurais bien aimé vivre ça avec l'équipe de France, mais malheureusement.
Vous avez postulé pour être coach.
Ouais, j'ai postulé pour être capitaine après l'arrêt de Yannick Noah.
Vous n'étiez pas le seul, je crois que Fabrice Santoro le souhaitait aussi.
Fabrice Santoro, Amélie, Sébastien. Donc ils ont choisi Amélie dans un premier temps, qui s'est retirée parce qu'elle a travaillé, elle a décidé de travailler avec Lucas Pouille. Et puis j'ai de nouveau proposé ma candidature.
Et c'est
Sébastien qui a été choisi.
Jean qui a été choisi.
Donc voilà.
Telle connue, on parle de Justine Hénin pour la première fois à 12 ans. Je regarde si vos enfants sont
l'amour.
Encore.
L'amour.
Non, bah non, c'est un peu, non. Ça va pas.
À 12 ans. Elle va dire vite avant d'aller. L'amour, c'est
vaste. Ah oui, au sens, c'est ça.
Oui.
Platonique du terme, non.
Non, c'est pas la première.
Ça vient d'Agnès.
Non.
À 12 ans.
À 12 ans. C'est choquant.
Premier match sur le circuit.
Elle avait son autonomie en vie. Elle avait ses clés d'appart, une carte bleue, je sais pas.
12 ans.
Bah, je sais pas.
Une blessure.
Je suis pas sûr de quoi on parle.
C'est un truc qui va.
Premier trophée.
Non, mais si tu te retournes par rapport à ses enfants, c'est que c'est un truc.
C'est un lien. C'est un lien lointain avec l'actuelle activité.
Sa première passage télé.
Mickaël Yodra. Non.
T'as bu ton premier verre de vin.
Quoi?
Ah ouais, c'est ça.
Première bière.
Première bière.
Elle a goûté.
Exactement,
elle
est.
Biture.
Ouais, première cuite.
Mais enfin.
Bah, elle est belge.
Oui, en fait. Ouais.
Ah, c'est une belge.
Ouais, c'est une belge.
Ouais, après, il n'y en a plus eu beaucoup jusqu'à. Mon arrêt de carrière. Jusqu'à mon arrêt de carrière, je dirais. Mais ah oui, c'est vrai qu'en Belgique, on est assez précoce. Donc, effectivement.
À 12 ans, une première cuite.
Que mes enfants ne m'entendent pas.
Ouais, tu parles.
Ça
tombe
bien,
elle ne réalise pas. Elle ne réalise pas. Ben oui, mais j'ai grandi avec deux grands frères qui ont 7 ans et 9 ans de plus que moi. Ils m'ont toujours entraîné dans de très mauvais coups. Et donc voilà, manifestement.
Très bien.
J'ai pas fait ma carrière comme ça,
Non.
Comme quoi, ça n'empêche pas non plus d'être champion.
Oui.
En mars 2005, Ivan Ljubicic, je sais pas comment prononcer, pardon, prépare son troisième match du tournoi de Miami. Mikhail Yodra décide de lui faire une surprise. Laquelle ? Ça se passe dans les vestiaires.
Il lui pique sa raquette.
Il lui vole ses habits, son slip.
Ça a un rapport avec
sa
ça.
Sa serviette,
non.
Ses chaussures.
Il lui échange ses vêtements.
Sa raquette.
Il enlève les lacets.
Il non, lui non. confisque
il
la raquette.
Il met quelque chose, pardon ?
Il confisque la raquette.
Non.
Il l'attend tout nu.
Exactement.
Mais non.
J'allais le dire.
C'est génial.
Non mais attends, mais où il l'attend tout nu ? Dans le casier.
Oh là là, ça va.
Non, c'était alors je vais remettre dans le contexte.
C'est
c'était
un
défi qu'Arnaud Clément m'avait lancé.
Donc vous aviez des amis quand même.
Les
ce mec est fou.
Le casier de.
T'as entendu la phrase d'Agnès ? Vous aviez quand même des amis.
Ouais. Non, mais bon là, c'était un petit défi que m'avait donné, m'avait confié Arnaud Clément. C'était de rentrer dans le casier. Et il s'avérait que je sortais de la douche et je lui dis bon bah là, j'étais avec la serviette et je commence à rentrer une jambe, deuxième jambe.
Avec la serviette, Arnaud, c'était trop.
Voilà, et la serviette, ça coince. Donc je retire la serviette. Et j'ai réussi. Et on regarde le casier et il me dit attends, il y a Ivan qui arrive. Je vais mettre sa raquette qui était posée. Je vais la mettre dans le vestiaire comme ça. Il était obligé d'ouvrir son casier. Et là il ouvre, mais j'étais coincé. Mais je ne pouvais pas bouger d'un centimètre. Il a ouvert, et il a sursauté comme ça. Il a pris sa raquette. Il fait, mais qu'est-ce que tu fais là? Et donc là, il a bien fallu que je lui dise. C'était une période de sa carrière où il était monstrueux. J'ai dit, j'essaie de m'inspirer dans ton casier. Et ça a fait le tour du monde.
Tour du monde, et d'autant que lui, non sans humour, dit que maintenant, quand il rentre ensuite, quand il est rentré dans des vestiaires, quand il ouvrait les casiers, il le faisait très lentement avec beaucoup de crainte.
Trop mec.
On sait jamais s'il y a Serena Williams.
Alors, vous commentez tous les deux les matchs de la 118e édition de Roland Garros qui se déroule jusqu'à dimanche. Est-ce que d'abord on vous a attribué le service des sports, ceux qui, je sais pas moi, qui vous dirigent, qui vous coachent, qui font les plannings, vous attribuez des rôles bien précis. C'est-à-dire, vous êtes à table, vous, avec Laurent Luyard.
Moi, je suis plutôt en plateau avec Laurent Luyard. Je suis un peu son assistante aussi et sa coach.
Ah oui, chercher café, tout ça.
Ah ouais, ça va
mon
lui
Dieu.
Plaire ça, Laurent.
Mon Dieu, mais je
non,
vais...
non, mais quand il quitte le plateau dans l'oreillette, on me dit, tu veux pas appeler Laurent? Je lui dis, d'accord. Et puis, je le coach aussi, vestimentairement. Et donc,
Ah, c'est vous? Ah, apparemment, vous continuez sur l'alcool, apparemment.
Exactement. Non, je le coach pas. Une fois qu'il est en plateau, je le rassure. Il me dit, t'es sûr, c'est pas bien? Je dis, là, de toute façon, c'est trop tard. C'est bien, Laurent.
Une cravate, c'est vrai que c'est un parti pris.
Le plateau étant le plus beau plateau que l'on connaît, c'est-à-dire, vous êtes vraiment sur le toit du central de Roland Garros avec une vue plongeante.
C'est magnifique.
Sur tous les cours.
Raphaël Nadal était là avec nous hier. Il dit, c'est encore beaucoup plus beau d'ici. C'est vrai qu'on se régale. Ouais, j'ai beaucoup de chance. Puis on a première semaine, on voit énormément de matchs. On passe d'un match à l'autre et c'est très vivant. Puis voilà, je commenterai peut-être quelques matchs cette semaine. Mais moi, mon rôle est plutôt là. Et voilà, on est une chouette équipe cette année.
Et l'exercice de commenter, justement. Alors, Mickaël, vous le faites. Être au poste de commentateur, c'est...
Alors moi, c'est vraiment la première année où je commente vraiment beaucoup. Avant, on était avec Arnaud Beutsch et Arnaud Clément, qui nous ont quittés cette année. Donc, je passe pas mal de temps dans la cabine.
Enfin, ils ont quitté.
Ils ont quitté le France Télé, on va dire.
Voilà.
Mais c'est un nouvel exercice. Je commentais un petit peu chaque année, mais vraiment, je passe vraiment beaucoup de temps. Je prends beaucoup de plaisir parce que, effectivement, c'est des on a eu pas mal de beaux matchs. Je prends encore plus de plaisir quand je commente les Français, parce que je suis très chauvin et que ça me plaît bien, donc voilà.
Mais pardon, vous ne pouvez pas, l'une, comme l'autre, vous ne pouvez pas aimer tous les joueurs. Il y a bien au fond de vous une petite voix qui dit « j'aime bien un tel, j'aime pas l'autre ».
Oui, je crois qu'on essaye d'être assez franc. Bien sûr, on apprécie plutôt
parce que vous savez des choses vous savez des choses que nous, on ne sait pas sur ou la gentillesse ou la sympathie de telle ou telle personne. Et puis la manière de jouer que vous pouvez trouver aussi trop prudente, soit
C'est vrai qu'on a plus d'affinité avec certains.
Bon, alors comment gérer ça ?
On essaye de rester les plus neutres possibles. Je pense qu'on arrive quand même à débattre de beaucoup de choses. Moi, j'adore le jeu de Caroline Garcia, j'aime beaucoup sa personnalité, mais c'est vrai que dans son
interview... Elle a
interview,
du caractère, oui.
Ouais, du caractère, mais dans son interview d'après-match, quand elle dit c'était un mauvais jour... Et là, non, moi, je me sentais obligée de dire, il y a eu beaucoup de mauvais jours depuis un an et demi, et c'est une fille qui peut aller beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Il y a beaucoup plus de potentiel, donc il faut rester, je crois, honnête dans l'approche.
Garder de l'objectivité.
C'est exactement ce qu'a fait aussi Mickaël Yodra avec l'interview sortie de terrain de Gaël Monfils.
Oui, oui, quand il disait qu'il avait fait un bon match, ouais, non, j'ai été très clair. Hein, je lui ai dit, c'était pas un bon match, c'était très solide contre Antoine Mouan, où il a été très passif. Il a tenu son rang, mais c'était pas un grand Gaël Monfils. Mais aujourd'hui, ce qu'on demande aux joueurs, c'est de gagner.
C'est objectif, c'est pas méchant.
Non, c'est pas méchant. Non, j'ai vu Gaël à côté, 10 minutes après, oui. Voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, et je trouve que c'est aussi ça notre rôle aussi, d'apporter aussi cette fraîcheur et cette objectivité. Peut-être que tout le monde aurait dit, voilà, c'est super, Gaël, t'as mis 3-7-0 à Antoine Mouan. Ouais, il a respecté la logique de son match, c'était de gagner.
Alors
en
moi,
3-7,
sincèrement,
en
spectateur, c'est ce que j'aime chez vous, justement. C'est-à-dire ne pas forcément aller dans le sens du poil et pas passer le balai le long des lignes en disant c'est formidable, c'est merveilleux, mais au contraire, d'apporter votre analyse, votre connaissance, et de dire, même avec délicatesse, mais de dire la vérité. Et j'avoue que quand je vous entends contredire un joueur ou une joueuse après une déclaration, c'est une vraie valeur ajoutée, parce que les journalistes soit ne le font pas, soit passeraient à autre chose en disant...
Ou n'osent pas aussi.
Il ne faut pas polémiquer, oui, il ne veut pas clasher.
J'ai pris parti d'aller contre Patrick Mouratoglou qui était venu sur le plateau en disant que ça allait être un match très serré entre Antoine Wang et puis Gaël Monfils. Bon bah voilà, après c'est chacun sa manière de vivre les choses, son ressenti. Pour moi, il y avait un niveau d'écart, et puis surtout, il y avait une chose très importante, c'est que c'était la première rencontre sur le court Philippe Châtrier. Ouais. Voilà, troisième tour, un peu émoussé, et pour moi, il y a tellement un écart dans la tête à ce moment-là.
Mais il y a un vrai potentiel. Wang est...
Ah oui, non, il joue très bien.
Et prometteur.
Oui. Ah oui, ouais, oui, prometteur.
Il est super sympa.
Et puis, on sent beaucoup de fraîcheur, de légèreté.
De choses à dire, hein. Ouais.
Ouais. Léa, oui, oui, non, je me demandais justement si c'était pas difficile quand on a été ancien joueur d'être là aux commentaires et de dire des choses sincères, vraies, en se demandant l'impact psychologique aussi que ça peut avoir, parce que c'est un tournoi, donc le chemin est encore long. Est-ce qu'on s'interroge pas en se disant, est-ce que vraiment je dois dire à l'antenne cette vérité à tel joueur, ou est-ce qu'il vaut mieux pas pour le préserver, que je dise c'était un bon match, en effet, il y a des
tout
choses solides, mais pas que merveilleux, mais de nuancer en tout cas, de se dire attention, il y a peut-être une prise en compte psychologique à avoir en ancien confrère quoi, et consoeur.
Si, on y pense, il y a une vraie crédibilité à gagner et à garder, et voilà, je pense qu'il y a des choses en tant qu'ancien joueur, il y a des questions qu'on ne poserait pas, ou il y a des choses dont on ne parlerait pas, parce qu'on peut se mettre à la place de des joueurs, et là je pense qu'on doit garder aussi cette expérience et cette distance.
De quoi on ne parle pas, par exemple, d'après vous ?
Je sais pas, moi j'irai jamais sur le terrain des questions privées ou personnelles, ou d'essayer de gratter un peu plus. Voilà, on est
bon après. À part si c'est physique ou des blessures ou si c'est.
Oui, voilà. C'est ça, oui, parce qu'on est là pour parler du ressenti du joueur et pour comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, je pense qu'on essaye de le faire toujours avec bienveillance, en essayant de comprendre. Moi, j'aime beaucoup l'analyse psychologique, justement, parce que je trouve que c'est tellement passionnant dans le jeu. Mais je crois qu'on a dans un petit coin de notre tête toujours aussi cette chose de dire, c'est beaucoup plus facile d'être là en plateau et de juger ce qui est en train de se passer, ben voilà, que pour l'athlète qui est sur le terrain où il peut se passer tellement de choses dans la tête, quoi. Et puis il y a toute la dimension personnelle derrière, hein. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie du joueur ou de la joueuse, je veux dire, ce sont des êtres humains, et donc ça, je crois qu'on y pense, et on sait que c'est beaucoup plus facile d'en parler que à leur place d'agir, quoi.
Mais peut-être que vous rendez, Mickaël Audrain, un énorme service à Gaël Monfils en lui disant non, vous n'avez pas bien joué pendant ce match, contrairement à ce que vous dites, pour ne pas non plus qu'il s'enflamme et qu'il tombe dans la suffisance dont on parlait tout à l'heure, qui est l'un des reproches qu'on lui a souvent fait.
Je suis suffisamment proche de Gaël pour
savoir
objectif.
Qu'il va pas mal le prendre.
Et voilà, exactement. D'accord. À partir du moment où il n'y a pas de méchanceté dans ce que je dis, c'est effectivement, c'est un ressenti, et il le sait pertinemment.
Papier, on peut dire.
Si on regarde juste le score, on se dit que c'est fabuleux, il lui a mis 3-7-0, mais voilà, c'était un match solide, mais il peut être tellement meilleur. Mais ce qu'il a fait ce jour-là, ça suffisait pour gagner contre Antoine Wong.
C'est rare que le joueur le dise lui-même, parce qu'il a besoin de se rassurer.
Exactement, il y a le langage interne qui est important aussi.
Mais au fond d'eux, en général, ils savent bien quand même ce qui est en train de se passer.
Ils sont lucides.
Ouais. C'est jusqu'au 9 juin, et je peux vous garantir qu'ils font un effort dingue de venir à ce micro jusqu'à 12h30, parce qu'ils savent que ça commence à jouer depuis 11h, et que vous aimeriez voir ce qui s'y passe sur le central, d'autant que là, c'est... qui joue là, 11h, je ne sais même pas. Nadal ?
Ben moi, j'ai retrouvé mes enfants ce matin, et j'avoue que je n'ai pas le premier match du jour. Okay. Je vais m'y coller quand j'arriverai à Roland dans une heure.
Ok, on va faire vite alors. Mais on va parler avec le père Albert. Père Albert,
Cherningue.
Les commentaires de nos champions sont essentiels pour le succès aussi de Roland-Garros à la télévision.
Absolument, Nangui. Avec une tennis vraiment de l'envergure de Justine Hénin. Coco, Justine. Et un tennisman de la cabine de Mickaël Laudra. Coco, Mika. Avec une joueuse et un joueur d'aussi haut prestige, deux enfants de la balle, de tennis, les commentaires et le suivi des matchs sont évidemment de très haute volée. Et c'est beau. Beau comme la première biture de Justine. Beau comme les coups droits de Nadal. Beau comme le regard de Federer. Beau comme la guerre en Serbie de Djokovic. Beau comme le corps...
Non.
Oui, mais comme le corps musculeux de Gaël Monfils, dont je suis d'une certaine façon le père. Je me réjouis d'autant plus de la présence de Justine et Michaël à Roland. Alors quand on veut donner l'impression de faire partie des privilégiés, on ne dit pas « je vais à Roland-Garros », mais « je vais à Roland ». Je me réjouis d'autant plus que, tout près, à l'orée du bois, je gare ma camionnette au Monerie Bâché Cuir Clouté Noir, qui pendant le tournoi sert de vestiaire pour jeunes ramasseurs de balles en recherche. C'est honteux, mais c'est vrai. Des jeunes que je mets néanmoins en garde contre certains aspects du tournoi qui pourraient heurter leur innocence. En effet, si les balles qu'ils ramassent vont parfois au filet, je redoute qu'à la suite de ce qu'ils pourraient entendre et voir, ce soit les patates qu'ils pourraient avoir au fond des filets. Par exemple, c'est en entendant ces cris rauques, sauvages, poussés, feulés, râlés, gémis par les joueuses et les joueurs, et dont l'écho complice se répercute sous les frondaisons du bois de bobo, et qui viennent complètement désorienter la faune locale, qui, d'ordinaire, ne hante de la sorte qu'à la tombée de la nuit. Excusez-moi, j'ai un nouveau chaud à la gueule, je dois m'arrêter. Bonne émission.
Ah, bonne nouvelle, merci beaucoup, Albert.
France Inter, Nagui, la bande originale.
Les deux rendez-vous d'aujourd'hui, c'est la fin du match. Père, qui a été arrêté par la nuit, et peut-être tant mieux pour lui, parce qu'il était mené de 7 à 1.
Il était temps que ça s'arrête.
Ouais, il était temps que ça s'arrête. Oui. Ça aussi, comment vivre un match... Non, comment...
Oui.
Ah, tu crois qu'avec le toit, il pourrait continuer de jouer?
Mais non, mais dans 2 ans, quand il y aura le toit, Roland-Garros... on va pas interrompre les matchs.
Non, dans 2 ans, il y aura même des sessions, des night sessions, quoi. Donc, il y aura des sessions.
Donc, ça veut dire que ça va changer quand même la phase du tournoi, parce que ce que aussi, ce qu'on aimait, mais ça, c'est personnel, c'est la pluie débarque, le match est interrompu, et on se dit.
T'aimes ça, toi?
Génial.
Moi, ce que j'adore, c'est que psychologiquement, je me dis que l'athlète qui est mené éventuellement, il a peut-être une occasion de se refaire un peu physiquement, psychologiquement, et on a vu des matchs comme ça où il revenait le lendemain et c'était lui qui pliait le match. Donc, il y avait, je trouve, un enjeu supplémentaire.
Il y a un vrai impact. Ça va changer. Ouais. Ça, c'est sûr. Maintenant, bon, pour les spectateurs, les téléspectateurs et même les joueurs, hein, d'une certaine façon, je crois que tout le monde sera quand même content.
Ben oui, parce
c'est dur,
oui.
Hein, une interruption
de
match.
C'est pour quelques joueurs, hein, parce qu'il n'y a qu'un court, hein, qui est couvert. On parle de Roland Garros, mais
si vous êtes pour central, c'est vrai.
Et quand vous êtes programmé sur tous les autres cours, même le Sudan Lenglen, et ben t'attendras comme tout le monde. Donc c'est bien pour pour les spectateurs, le public qui sera présent à Roland Garros. Les autres, ça sera exactement la même chose.
D'accord. Donc ça jouera essentiellement pour les gros entre guillemets,
les
poids lourds à partir des huitièmes ou des quarts, quoi. Quand
ouais, même les premiers tours. Mais quand tu vas être programmé sur le central, tu sais que tu finiras ta journée.
Tu finiras le match. Alors là, justement, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Père quand on est mené 2-1, et en plus lui, le set qu'il a pris de mémoire, il était à 7-6, hein, il était... On revoit tout un coaching, on capitalise tout sur il faut que je dorme, il faut que je récupère, que je me fasse masser, c'est que le physique, il y a le mental, qu'est-ce qui se passe?
Je pense qu'il va déjà, il va parler avec son coach déjà des 3 premiers sets qu'il a pu faire, c'était bien parce qu'on l'a vu très très nerveux, et c'est la première fois qu'on le voit comme ça dans le tournoi, avec beaucoup de perte d'énergie entre les points, les raquettes. On a failli assister à une scène cocasse quand même. À un moment donné, il lui restait plus qu'une raquette.
Tellement il en avait cassé.
Il en avait une cassette de rage. Et puis après, il a voulu refaire corder ses raquettes. S'il cassait sa raquette, ses cordes,
ça aurait été du jamais
vu. Il n'avait plus de raquettes. Mais plus de raquettes.
Mais quoi, on peut aller en chercher une, non?
Mais elles étaient en train d'être cordées, ces raquettes.
Il fallait pas qu'il casse tout de suite.
S'il cassait son cordage, il n'avait plus de raquettes.
Et il va demander à son adversaire de le frapper.
Je ne sais pas.
Ça aurait été exceptionnel.
Mais qu'est-ce qui se passe dans ces cas?
Je ne suis pas sûr que Nishikori lui aurait donné une raquette. Une raquette du coach.
Son coach lui aurait donné une raquette comme ça, pas la même raquette, rien du tout. Ça aurait été exceptionnel.
Roland Garros, ça aurait été cocasse.
Il faut qu'il finisse, c'est jamais vu.
Il faut rappeler que cet objet-là, on dit bon, passe-moi ta raquette, c'est pas une raquette de ping-pong, hein. C'est une raquette qui est sur mesure, aussi bien le diamètre du manche que le cordage, que le tamis. Enfin, c'est vraiment chaque joueur. Ça se prête pas à une raquette, j'ai envie de dire.
Il y a des modèles de base, et puis ce sont des modèles améliorés, quoi. On va rajouter un petit peu de poids à tel endroit. Alors, au niveau du cordage, évidemment, il en existe des tas de sortes. Et puis, la tension, évidemment, en fonction de la météo.
C'est vraiment le matériel propre à chacun. On a tous une vision différente de la raquette, du poids en tête, du poids dans le manche, et la donc, même forme de grippe.
Donc pour finir avec votre raisonnement, vous ne l'aviez jamais vu dans un tel état
Il était très calme en ce début de tournoi et finalement presque le match finalement où on se dirait qu'il a presque rien à perdre, où il joue Nishikori qui joue très bien, il l'a jamais battu sur terre battue. On aurait pu penser qu'il soit très libéré, et puis finalement c'est là où il était très très nerveux, parce que je pense que le poids de l'événement, il sent qu'il est capable de gagner ce match-là,
ouais, mais possible, ça
il
bien.
Le maîtrise pas, et je pense que c'était bien
mieux
qu'il soit
que ça s'arrête, mais trouver le sommeil derrière, c'est compliqué, quoi. Quand on est mené, hein, quand on mène, c'est un peu plus facile, mais quand on sait qu'on est dos au mur, là il est dos au mur.
Mais ça veut dire que s'il gagne, il jouera tout de suite demain.
Il jouera demain, ouais. Donc, maintenant, d'un autre côté,
il n'a pas de jeu et contre Nadal.
Oui, mais ça veut dire aussi que hier, ils n'ont pas joué pendant 4 heures. Ouais. Aujourd'hui, ils vont pas a priori jouer pendant 4 heures non plus.
Et donc, c'est la programmation. Hein.
Oui, et puis il y a des joueurs qui aiment bien être dans une certaine continuité, quoi. Parfois, un jour de break, alors chez les hommes qui jouent en 5-7, c'est indispensable. Il y a des joueurs qui préfèrent, être dans un certain rythme.
Dans le rythme. Ouais. Au programme aujourd'hui aussi, c'est Gaël Monfils contre Thiem, Dominic Thiem, qui est mieux classé que lui au niveau mondial. Et tout ça pour aller se faire Federer derrière,
c'est-à-dire qu'il c'est un gros match, hein. Il l'a jamais battu sur terre battue.
La route est pas simple.
Ouais, il l'a jamais battu sur terre battue. Il a perdu 5 fois. C'est très clairement un match qui sera très très dur. Mais Gaël n'a pas perdu de temps dans cette première semaine. Donc 3 victoires en 3 sets. Et on le sent depuis le début de l'année, plus de légèreté, beaucoup plus de confiance.
C'est le coaching,
une nouvelle approche. Je pense que oui, effectivement, son nouveau coach, puis on se sent plus heureux, il est amoureux, et Gaël est d'autant plus, difficile à battre quand justement tout est réuni comme ça.
Et puis justement, sa compagne, c'est une joueuse qui est sérieuse, quoi. Donc j'imagine ça lui apporte aussi des choses, elle est très très pro dans son approche. Et donc,
c'est l'Ukrainienne qui a perdu face à l'Espagnole, Garbine.
La vie privée a tant d'impact que ça sur le jeu d'un joueur, Justine.
C'est clair.
C'est monstrueux.
Si, on ne sait pas. Voilà, tout ce qui se passe derrière, comme je le disais, hein, nous sommes des êtres humains et tout ce qui fait de notre quotidien aussi. Et donc, quand on vit des déboires, on essaye que ça ait un minimum d'impact sur le terrain, mais c'est là où on doit être des grands pros, mais c'est
toujours
dur, facile.
C'est dur, quand on est marié, qu'on a des enfants, il peut y avoir plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte, et c'est
Et à l'inverse, quand on est célibataire et volage,
ça peut avoir aussi des problèmes.
Et en des heures de sommeil. Donc, c'est-à-dire que
Jean-Marc Roger disait, mes enfants ont grandi et là, ça y est, on recommence à dormir un peu plus, donc je me sens mieux, quoi.
Ouais,
c'est dingue. Bon, il a quand même des jumelles et puis des jumeaux. Ouais, donc, ils sont quatre.
Non, donc, surtout une grande maison, à mon avis. Ils peuvent être dans la chambre du fond.
Oui, mais apparemment, ils sont très, très fusionnels. Et donc, bien sûr, ça a un impact, quoi. Serena qui voyage avec sa petite fille d'un an et demi, on peut imaginer que c'est quand même quelque chose à gérer, quoi.
Donc quand vous gagnez,
plus aucune allusion sur sa maternité, ça a été mal vécu.
Donc
je voulais pas être maladroit, je l'ai trouvé simplement.
Mais on est tout à fait d'accord sur le fait qu'elle n'est pas prête
physiquement.
Aujourd'hui
elle aurait pu ne pas venir.
À jouer, à gagner en chaîne.
On aurait compris, quoi.
Moi j'ai beaucoup d'admiration. C'est une fille qui a vécu énormément de choses dans sa vie et qui a amené le jeu à une dimension physique et mentale. Elle nous a toutes fait beaucoup évoluer.
Ouais.
C'est une fille sur le plan mental. Vous n'imaginez pas la force qu'elle a, quoi. Quand elle décide quelque chose.
Pour une végétarienne.
Elle fait tout pour l'obtenir, oui.
Pour une végétarienne.
Et donc, j'ai du respect pour ça. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle n'est pas dans les meilleures conditions pour venir et s'imposer. Et puis, on attend quand même une jeune génération qui va un peu devenir des patronnes, qui vont devenir des patronnes sur le
Et puis, je crois que mentalement, elle n'avait pas la tête à ça. Elle a raté des balles seule au filet, très très simple, prétextant qu'il y avait un faux rebond. Tous les ralentis venaient montrer qu'il y avait zéro faux rebond.
Ouais,
c'est elle
qui était
empruntée.
Elle n'était pas de bonne. Et puis, elle a mis Dominic Thiem, là, en dehors de sa conférence de presse. C'était drôle quand même, quoi, parce que elle était tellement pressée de passer à la conférence de presse pour rentrer que Dominic Thiem, on lui a fait comprendre que il faut partir, et donc c'était
un peu la tolière, quoi, du moment.
Serena, c'est un personnage, hein.
On va continuer évidemment à parler tennis, et c'est tellement passionnant d'entendre parler Justine Hénin et Mickaël Yodra dans quelques instants, mais d'abord c'est tout aussi passionnant d'écouter Agnès Hurstel.
Bonjour, bonjour, vous allez bien?
Très bien, et toi?
Moi j'ai un peu honte ce matin, je me sens un petit peu débile, parce que d'habitude on reçoit des gens qui font des films ou qui écrivent des livres, et franchement ça fait pas très longtemps, mais je peux quand même le dire, je sais tenir un livre à l'endroit et le lire jusqu'au bout. Même que depuis cette année, je sais passer 1h30 sur ce fauteuil à côté d'un invité dont j'ai pas totalement apprécié l'œuvre, et même que personne ne saura jamais. Parce que j'ai vraiment, tu vois.
Bah, tu m'as jamais dit surtout.
Non, j'ai tout appris. Vous m'avez tout appris, les gars. Tu vois, Guillaume Musso, j'ai adoré. Le livre de recettes de Dave, j'ai adoré. Grâce à Dieu, le film de François Ozon, j'ai adoré. Tu vois, rien ne bouge, vraiment. Et je sais aussi regarder un film quand on reçoit des gens jusqu'au bout, comprendre que c'est pas à moi que les gens parlent dans l'écran et que les acteurs qu'on reçoit en promo ne sont pas les personnages de l'histoire. Même si c'est vrai que quand t'as Vincent Cassel juste à côté de toi, pas vous mentir, t'as un peu du mal à comprendre ce qui t'arrive et tu dois faire bien attention à ta petite diction pendant ta petite chronique pour pas baver sur ton petit micro. Et pour ça, tu te concentres sur Daniel, en fait, enfin sur le sommet du crâne de Daniel plutôt, ou sur sa chemise quand elle est à motif, et ça te calme. Et là, tu peux faire ton travail. Alors, travail qui consiste en quoi? Depuis le 28 août, je suis là, je ne le sais toujours pas, mais je reviens chaque semaine, je dis bonjour, je souris, je m'installe, l'invité me tourne plus ou moins le dos, mais je souris et je fais ma petite chronique. Et puis de toute façon, namasté, on verra bien si je suis là à la rentrée ou si une autre comédienne mi drôle mi-moche débutante m'a remplacée. Bref, venons-en au fait. Commençons enfin cette chronique. Donc je souris, personne me tourne le dos, c'est charmant. Je disais que je me sens un peu débile ce matin parce que moi, pourquoi le tennis, ben je n'ai aucune notion. Je n'y comprends absolument rien. C'est-à-dire que le vocabulaire que vous employez depuis 38 minutes, 7-6 dans le deuxième, top player, 2-2 dans le troisième set, balle pleine ligne, Thierry Henry, jouer à 5-7, Lucas Pouille, jeu à attaque à outrance. Non, je ne comprends rien. Alors ce vocabulaire, à la fois me rend nerveuse depuis tout à l'heure et puis m'excite un petit peu, mais je n'y comprends rien. J'ai essayé quand j'étais petite, quelques étés. J'ai essayé le tennis l'été comme ça, et la prof a demandé à ma mère que je ne revienne plus jamais parce qu'apparemment j'ai attrapé les balles comme à la danse classique en sautant. J'ai dû aussi arrêter la danse classique parce que je tenais la barre comme une lanceuse de javelot. Donc voilà, c'est comme ça que tu finis intermittent, ouais, du spectacle. Hein. C'est quand aucune discipline physique n'a voulu de toi, mais tu penses quand même que tu peux faire des choses devant des gens. Donc là, j'ai essayé ce week-end. J'ai regardé des matchs de tennis à la télé. Alors j'ai compris quelques bases. J'ai compris qu'il fallait vraiment toujours renvoyer très vite la balle, comme si c'était une boule de feu qui allait te faire très très mal. J'ai compris qu'il fallait pas rigoler quand les joueurs simulaient un orgasme féminin mieux que moi. Et j'ai compris que Lacoste était sponsor. Ça, je l'ai bien compris.
Ça.
Et j'ai compris surtout que le plus intéressant à Roland-Garros, quand t'es un peu naze, c'est les gens dans les gradins. Hein. Et d'ailleurs, c'est eux qui sont filmés. Pardon, mais voilà, c'est intéressant.
Quand ils sont dans les gradins.
Est-ce que Danny Boone officialise sa relation? Est-ce que Laurent Delahousse est toujours avec Alice? Est-ce que Nagui porte bien le bob? Est-ce qu'il y aurait pas une petite starounette oubliée de la Starac qui nous ferait croire qu'elle aussi, elle est sponsorisée par Lacoste et qu'on peut encore lui donner du travail? Voilà, ça j'y arrive. Bon, je vais vous laisser en musique ce matin. Voilà, ça c'est la seule partie de la discipline que je réussis à faire sans connaître les règles. Bonne semaine.
Merci Agnès.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
C'est vrai qu'il y a eu une sortie récemment de Fabrice Santoro, me semble-t-il, qui se plaignait, mais il n'est pas le seul, des travées vides des loges qui sont vides. On se dit, je crois que la phrase de Fabrice, si je l'ai un peu en mémoire, c'est oui. si ceux qui viennent inviter à Roland-Garros vont d'abord déjeuner, puis après il fait trop chaud pour venir sur le court et ne viennent qu'à 17h ou 18h, ça ne sera plus vraiment la même ambiance. Vous avez ce sentiment-là aussi? C'est un peu, en tout cas pour le central, préempté par des relations commerciales et des sociétés qui donnent des invites plus qu'autre chose?
Probablement. C'est difficile, je trouve, de mettre vraiment le doigt sur la cause, mais il faut peut-être se rappeler l'ancien stade et peut-être qu'il était aussi vide aussi à certains moments. Peut-être qu'il y a beaucoup d'attentes parce que c'est le nouveau stade de Roland-Garros.
Roland-Garros a pris part de mettre les loges en bas.
Oui, mais là, c'est pas que les loges, hein, Mika, même
ouais,
tout
non,
en haut.
Oui, non, mais c'est vrai, mais donc... on peut se poser la question, effectivement, la semaine, le week-end, c'est exactement la même chose, quand il y a un Français qui joue. Ouais. Aujourd'hui, il faut être très très honnête, à chaque fois qu'un grand joueur, quand Federer joue, c'est souvent assez rempli, ou Nadal ou Serena Williams, on l'a pu le constater quand Serena jouait en fin de journée.
Oui, mais là, en fin de journée, ils ouvrent les portes à tous les spectateurs, c'est ce que le président nous a dit hier.
Ce qui n'est pas le cas avant, pas le cas à midi, 14h.
Voilà, c'est ça, et donc là, c'est aussi pour ça qu'il y a eu beaucoup de monde. Mais bon, voilà, on n'arrive pas vraiment à avoir la raison. Je pense que les gens se baladent beaucoup plus peut-être dans Roland-Garros parce que c'est nouveau cette année. Ils vont voir le cours Simone Mathieu qui est un endroit magnifique. Hein, quand
et
même,
puis parce que c'est pas simplement qu'une compétition. Roland-Garros pour les professionnels, c'est aussi un lieu où on se rencontre.
Relations publiques.
Alors c'est ce que j'allais dire.
C'est un lieu de réseau parce que quand on évoquait les loges au bord du terrain qui sont parfois vides, c'est en effet des places qui sont attribuées en lien.
C'est
avec
les relations publiques, très clairement. C'est où les gens passent du temps.
Des sponsors qui donnent.
Il y a plus d'hospitalité cette année, parce qu'il faut aussi payer le stade et les aménagements. Donc, est-ce qu'on peut en vouloir au tournoi de finalement devoir financer tout ça? Je pense pas. En tout cas, c'est vrai qu'au niveau...
J'ai trouvé le coup de gueule de Fabrice Santoro très sain, au même titre que, je sais pas si vous vous souvenez, en 98, quand Didier Deschamps était allé en conférence de presse pour la Coupe du Monde de football, et il avait dit, il y en a marre des costards cravates dans le stade, puisqu'il y avait que des invités par des sponsors, justement, parce que les places étaient trop chères. Oui. Et le public, après, s'était totalement lâché en se peignant des drapeaux sur le visage et en chantant la Marseillaise.
C'est très bien d'en parler. Et moi, je trouve que voilà, c'est aussi parce que le monde, la société change. Mais aujourd'hui, à l'époque, on avait une invitation, même si on était invité, même si on allait dans une relation business, je pense qu'on passait malgré tout la journée, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ont envie de faire 3 ou 4 trucs différents sur leur journée. Et donc, ils viennent passer une petite heure à Roland-Garros et puis ils vont faire d'autres choses. Et donc, c'est peut-être à ce niveau-là que ça se joue.
La musique dans vos vies, on vous a demandé ce que vous écoutiez dans les années 2005 et 2007, Justine Hénin, vous écoutiez Bob Sinclair.
C'est bien ça, non, Mika?
À quel moment vous écoutez ce genre de musique dans les vestiaires pour vous concentrer?
Alors moi, j'ai jamais écouté trop de musique quand j'étais dans le stade et j'avais pas non plus le casque comme la plupart des joueurs. Hein. Aujourd'hui, la musique a pris une place incroyable. Non, dans ma chambre, dans la voiture en rentrant à l'hôtel, quand j'avais besoin d'avoir un peu de pêche. Ouais, c'était une chanson que j'aimais beaucoup. Ouais.
Les 97, c'est votre premier titre.
En 2005, on est en 2005.
Ah bon, pardon, moi j'étais en premier titre à Roland-Garros.
Mais non, on est en 2005, parce que ça forcément. Une
mais oui, 2005, j'ai sauté. Bah, on reste à Roland-Garros de toute façon.
S'il te plaît.
Vous gagnez, vous remportez la finale face à Marie Pierce, qui est consultante aussi.
Elle est un des collègues maintenant.
Ouais, vous n'étiez pas du tout copine donc à l'époque. Est-ce que là maintenant.
Non, on ne se détestait pas non plus, hein,
non.
Je précise.
Ouais.
Elle n'est pas d'accord avec ça,
bon, je vais lui en parler dans une heure.
Vous vous rappelez que vous l'aviez battue en 2-7?
Oui. Ça avait été un peu dur.
Oui, ça avait été une petite fessée quand même. Et en 2005, c'est aussi une année pour vous. Vous atteignez les finales des 4 tournois du Grand Chelem.
Alors, c'est l'année suivante en fait. Donc en 2005, je gagne Roland-Garros, effectivement contre Marie, dans un match un peu rapide. Il faisait pas beau. J'avais gagné 6-0, 6-1. C'était un moment
violent.
Dur pour le public. Et c'était... Ah, j'oserais pas dire que c'était dur pour moi non plus sur le moment, mais avec le recul, on se dit pour les spectateurs, c'est pas fun quand même. Et l'année suivante, là, j'ai regagné Roland-Garros en 2006, et là, j'ai joué les 4 finales des tournois du Grand Chelem, en perdant contre Amélie Mauresmo à l'Open à Wimbledon, pardon. Et puis voilà, j'étais pas dans mon meilleur niveau tennistique, mais j'avais joué les 4 finales, et Wimbledon, j'ai jamais su l'accrocher à mon palmarès. Mais...
J'aurais bien aimé faire finale, moi, des 4 tournois aussi, en jouant
à
niveau
moyen.
Bah
oui, mais tu sais quoi, j'étais quand même déçu à la fin de l'année.
On va parler de Wimbledon avec Mika Yodra. Vous écoutiez, vous avez envie de, en tout cas aujourd'hui d'écouter. We go down to the river and into the river we dive. Springsteen, The Boss.
Ouais, ça a bercé mon enfance et surtout mon premier entraîneur Emmanuel Plan qui adorait Bruce Springsteen. Il m'a amené voir Bruce en concert et depuis j'ai vu
4 heures de concert.
Oh, c'est exceptionnel, une bête de scène
physique
à Barcelone et je me souviendrai toute ma vie. J'étais le voir au stade des Giants à New York.
Wow,
j'y suis allé au dernier moment, j'ai lâché un beau billet pour y aller. Et il pleuvait et a priori pendant quelques temps ça a été un peu tendu savoir si le show allait avoir lieu. Et il a commencé avec une reprise de Bob Dylan, Who Stop the Rain. Là, il s'est arrêté de pleuvoir et là, il a mis à fond Born in USA.
C'est bien,
là, j'étais
bien,
américain.
Ça file les poils.
Ah, c'était terrible. Une bête de scène.
Il a un album qui sort là dans 15 jours.
Nouvel
album de
Springsteen.
Et donc Wimbledon, oui.
Ouais, vous, dans ces années-là, c'est un Masters avec Santoro. Et ensuite Wimbledon avec Arnaud Clément.
Ouais, bah moi je suis plus connu pour le double. Bien évidemment, j'aime bien
surtout vous le remportez.
Ouais, c'était très sympa de vivre des émotions avec des copains. J'ai pas eu la carrière en simple que Justine a eu, mais c'est vrai que moi j'adore le sport co, j'aime bien le partage et je sais pas d'ailleurs pourquoi j'ai joué au tennis parce que mon père jouait au foot, j'adorais ça et j'adore c'est sans doute pourquoi aussi j'adorais si fort la Coupe Davis. Et donc voilà, mes moments les plus importants de ma carrière sont
en équipe en fait.
En équipe.
Ouais, quels souvenirs vous gardez de cette victoire à Wimbledon? On se demande toujours quand l'équipe de France de football remporte la Coupe du Monde et qu'ils se mettent tous à élever ainsi la Coupe. Qu'est-ce qui leur passe dans la tête?
Bah, c'est vrai que Wimbledon est un tournoi à part, j'ai envie de dire en double, parce qu'il se joue au meilleur des 5 manches, comme en simple. Et voilà, c'est un tournoi mythique pour moi. Le plus important, parce qu'il y a une histoire, une tradition, et qu'on le veuille ou non, le gazon est une surface particulière, on peut pas y jouer tous les jours dessus, donc forcément quand on arrive la première fois c'est particulier. Et puis voilà, puis j'ai vécu 15 jours bien animés où effectivement j'étais passionné de vin et on s'était mis un petit délire où à chaque fois qu'on gagnait le match on allait chez le caviste acheter une petite bouteille et puis on n'a pas dérogé à la règle jusqu'à la fin.
Et ça, on gagne quand même. Je pensais que l'alcool.
Eh ben oui, effectivement. Non,
mais il achetait, il consommait pas.
Raisonnablement. Mais non, ça reste des grands moments.
Oui, à l'époque déjà. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que maintenant que l'alcool est un peu considéré comme une contre-performance possible.
Oui, alors
pour le
attention,
sport.
Moi, je ne buvais pas de blanc, pas de champagne, c'était du rouge et puis un ou deux verres. Mais c'est. Voilà,
je pense que Yannick Noah avait été le premier à faire la fête pratiquement la veille ou l'avant-veille de la finale.
Bon, surtout, sans doute la veille. C'est pour ça qu'il a gagné d'ailleurs.
Voilà,
c'est ça. Non, mais il y en a quand même très peu qui font des grosses fêtes. Enfin, moi, j'ai jamais bu pendant ma carrière, j'ai jamais rien bu. Et
même pas un verre de rouge, rien.
Pendant une coupe de champagne quand je gagnais Roland Garros et c'était tout.
Ouais,
une fois par an, comme a dit Mika,
depuis elle s'est rattrapée.
Oui.
C'est pour ça qu'il fallait gagner.
Donc, avant, et après,
on va pas continuer de parler musique, pardon, parce que je voudrais profiter de la présence de Fabrice Abgral, journaliste sportif spécialisé dans le tennis à France Info et à France Inter. Merci Fabrice de venir et d'avoir fermé les portes. Tout à l'heure,
il y a un courant d'air.
Tout à l'heure, Michael disait là en ce moment, on vit avec des Djokovic, des Federer, des Nadal, une période et des décennies assez fortes.
C'est la plus belle période. Hein, enfin.
Voilà, et il a rajouté, je me demande ce qui va se passer quand ils vont s'arrêter. Est-ce qu'il y a une relève?
Oui, bien sûr qu'il y a une relève. Il y a une relève. Alors maintenant, est-ce que la relève va obtenir les mêmes résultats que ces trois-là ou ces quatre-là en rajoutant Andy Murray? Je suis pas certain. Alors évidemment, on pense à Tsitsipas, le grec, la révélation de l'année, demi-finaliste à Melbourne. On pense même à Lucas Pouille, le français, pourquoi pas. Mais il y a d'autres joueurs, il y a Félix Auger-Aliassime. Par exemple, le Canadien, le Québécois, 18 ans, un garçon adorable, qui a un tennis exceptionnel, complet. Il y a Khachanov, il y a Dominic Thiem, parce que Dominic Thiem, c'est un peu le leader de cette nouvelle génération.
Autrichien, c'est ça qui
Autrichien,
affronte
tout à fait. Donc, voilà, il y a Alexander Zverev. Enfin bon, il y a plusieurs joueurs. Maintenant, est-ce qu'ils vont s'affirmer comme ces joueurs-là?
Ouais, mais on parle de charisme aussi.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire
qu'il y a Rafael Nadal, c'est 11 titres à Roland Garros.
Alors justement,
c'est pas rien,
à propos de charisme, pour les plus anciens qui ont connu.
Vous avez parlé de tennis romantique, là.
Yvan Lendl.
Non, moi, je pensais à McEnroe, je pensais à Connors, je pensais au coup d'éclat aussi, même à Anastase, avec son sens de l'humour. Ils continuent tous dans
On a Kyrgios aujourd'hui, qui fait parler.
Ouais.
Voilà, pas forcément pour son tennis, qui peut être exceptionnel, mais plus en dehors du court, où effectivement, il est capable
de se mettre nu dans
de
un casier.
Ouais. Totalement. Là, il s'est retiré dans Roland-Garros parce que ça le faisait chier royalement.
Ouais, il a quitté le court.
Il va trop loin. On est là. On est là.
Mais à Rome, il a acheté sa chaise au milieu de la.
Il a quitté le court en plein match. Il a pris son sac, il s'est barré.
Bon, il était agacé par le public.
C'est comme Dupont.
Il en a eu marre. Il a pris sa raquette. C'est bon, c'est vrai qu'il s'est barré.
Bon, c'était pas le meilleur exemple que je voulais donner. Non, mais c'est vrai que McEnroe, par exemple.
Mais aujourd'hui, on peut plus rien faire. Moi, je trouve que les instants sont beaucoup trop durs. Moi, je me souviens d'une image de Marat Safin après un point extraordinaire. En bout de course, il prend un passing, ça fait lettre. Et là, il mime un peu, qu'il baisse un peu son short. Il a pris $5,000 d'amende. Alors que le point était exceptionnel, que les gens, ou quand il y avait des cassages de raquettes à l'époque d'Ivan Isevic, ou voilà.
Justine n'est pas d'accord. Justine aurait donné 5000 pour qu'il baisse vraiment le short. C'est quoi la tête que vous faites?
Elle avait financé d'ailleurs.
Non, je sais pas, je suis partagée. Je trouve qu'il y a moyen d'être charismatique et attractif sans aller dans certains comportements. Ouais. Kyrgios, clairement, aujourd'hui, va trop loin, mais c'est vrai que McEnroe, quand il y avait ses coups de gueule, les gens aimaient ça aussi. Voilà, ça amenait de l'animation.
Mais il allait trop loin aussi.
Mais est-ce qu'un Federer est trop lisse? Je veux dire, voilà, je crois qu'il a fait sa carrière sur aussi le grand champion qu'il est. Est-ce qu'il doit manifester plus pour qu'on l'aime?
Non, mais chacun a sa, on va dire, son caractère. Mais pour ceux qui sont plus nerveux, un gars comme Benoît Paire, je pense qu'il fait du bien aussi par rapport à ce qu'il dégage, par rapport à son, sa personnalité. Maintenant,
il faut pas que ça nuise
à chaque fois.
La maîtrise des émotions, ouais, mais en tout cas pour performer, la maîtrise des émotions, c'est important.
Non, elle est importante. Par contre, on touche à Roger, c'est l'élégance à l'état pur, c'est un joyau, voilà, il n'a pas forcément la même attractivité qu'un Rafael Nadal, qui est beaucoup plus animal.
Sudiste déjà.
Ouais, exactement,
déjà,
latin.
C'est ça. L'opposition des deux est présente. On peut vous garder, Fabrice, après les infos de midi ou pas?
Ah oui, j'ai plein de choses à raconter. Okay. Une anecdote aussi super. Sur Mika. Mika Niodra.
Très bien.
Voilà. Sans souvenir.
Tanguy.
Méfie-toi, j'en ai quelques-unes sur toi aussi.
Ça doit être la même.
Tanguy Pastureau, bonjour Tanguy.
Bonjour.
Le pouvoir russe a un problème avec les gays.
Ouais, parce qu'ils imaginent que si les gens voient des scènes d'amour gay, ils vont le devenir. Or, ça ne marche pas comme ça. Moi, quand j'ai vu Brokeback Mountain, j'ai plus eu envie du GR5 dans les Alpes que du premier randonneur que j'aurais pu y croiser. Bref, ces abrutis ont coupé les scènes gays du biopic d'Elton John, Nagui.
Oh. Bah, c'est plus le même film surtout.
Ah, bah non. Bah, il ne reste pas grand-chose.
Nous en parlerons après les infos de midi. La bande originale avec Léla Kadouboudi, Agnès Hurstel, Daniel Morin, Albert Albouz, Tanguy Pastureau et nos invités Justine Hénin et Mika Niodra. Sur France Télévisions quand même, parce qu'on a beaucoup parlé tennis et j'ai pas assez fait la promotion de cette très belle maison de service public. France 2, France 3, France 4, toutes les chaînes sont au service de Roland Garros. Pour cette semaine, les matchs démarrent, sont sur France 2 et France 3. En moyenne, c'est à partir de 14h que l'antenne est prise pour vivre notamment les quarts de finale dames et messieurs, ou les fins de match comme c'est le cas pour...
Benoît Paire,
merci. Jeudi, les demi-finales finale dame, si la météo en tout cas ne décale pas aussi le planning, puisque apparemment Fabrice Abgral a des informations de ses rhumatismes disant qu'il va pleuvoir demain.
Ça commence à coincer un peu.
Ouais. C'était pas la porte finalement qui claquait. C'est son genou.
Vendredi, ce seront les demi-finales messieurs, où tout est fait pour qu'on ait soit Federer Djokovic, soit Nadal Djokovic, parce que les tableaux sont présentés comme ça. On a l'impression que...
Ce serait Federer Nadal en demi.
Je parle de la finale. Ouais, c'est ça. Et la finale, c'est...
Finale à Nadal Djokovic, probablement.
J'en ai bien peur.
Mais bon, et Roger quand même.
Ouais, faut se méfier.
Allez, espérons quand même.
Rêvons,
bah oui.
Ouais, enfin, ceci dit, ouais, rêvons pourquoi. Et pourquoi ce serait plus fort que ce soit Federer qui gagne que Nadal, pour vous?
Parce qu'il y a une dominante physique très importante, que Federer effectivement va jouer son véritable premier match en quart de finale, et que pour moi sur terre battue, Nadal est tout simplement exceptionnel.
Et physiquement, sur le regard de l'année entière, il y en a un qui arrive plus en forme que l'autre?
Non, mais la terre battue est plus exigeant, on va dire, pour Roger Federer. Et effectivement, au meilleur des cinq manches, je pense qu'il y a, vraiment une pilote part très importante.
Hein. Pardon?
Il y a 38 ans, Roger Federer. Hein.
Ah, mais c'est quand même intéressant hier, parce qu'il disait, bon, mon premier objectif, c'était dans deuxième semaine, mais peut-être qu'il faudrait que je revoie avec mon équipe, remettre mes objectifs à la hausse. Quoi. Je crois qu'il est très content d'avoir franchi ses premiers
tours. Il a gagné
tous
ses matchs en 3-7, en plus.
Oui. Après, il a été épargné.
Il va jouer Wawrinka au prochain tour, et je pense que Wawrinka va avoir du mal à récupérer, même si c'est un gros physique, mais il a les armes.
Wawrinka l'a battu trois fois sur terre battue, dont une fois à Roland-Garros, en 2015, l'année où il gagne.
Ouais.
Donc
tout est possible.
C'est un vrai test. Hein. Là,
ce qu'il y a de génial dans ce sport, dans le tennis, c'est que jusqu'à la dernière balle, tout est possible. Contrairement au foot, où les commentateurs, lorsqu'une équipe mène 4-0 à 10 minutes de la fin, nous disent c'est encore possible pour pas qu'on zappe, pour pas qu'on s'en aille, pour qu'on reste sur le match. S'il y a bien un sport où vraiment il peut avoir une inversion, même au 5e set, même quand il y a une balle de match, l'autre peut encore gagner. C'est ça qui est fou, non?
Ah, mais c'est merveilleux. C'est pour ça que c'est un sport extraordinaire. Tout peut basculer à tout moment, en raison d'une faute d'arbitrage ou parce qu'il y a un problème dans le public. Enfin, on se souvient par exemple de ce match avec Agassi et Bill Clinton. Vous vous en souvenez?
Bill Clinton.
Il était dans les tribunes.
Ah, il y a Agassi. Je crois qu'il jouait en double avec Bill Clinton.
Non, il jouait pas, mais il était dans les tribunes.
Et
Agassi a complètement déjoué. Et à chaque
fois
que Bill Clinton quittait la tribune, Agassi revenait dans le match. Et à chaque fois qu'il revenait en tribune, Agassi, tu t'en souviens?
C'était contre Sébastien Grosjean en quart de finale.
C'était incroyable, il déjouait complètement. Et voilà, c'est il y a un aspect psychologique qui est incroyable
qui est
dans
fort.
Ce sport.
Ouais. Alors reparlons tiens de Federer, Fabrice Abraham. C'est plus qu'une star. C'est il marque l'histoire du tennis.
C'est une légende, c'est un génie.
Déjà.
Enfin, il a mis le tennis à un niveau mais incomparable. Enfin moi pour. Alors on ne sait pas si ce sera le plus grand joueur de tous les temps. Pour l'instant, on peut dire que ça l'est. Non, mais il va falloir attendre que Nadal arrête sa carrière, que Djokovic arrête sa carrière, et puis après le débat sera lancé.
Il y a quelle différence d'âge entre Nadal et
Federer ? 4 ans.
4 ans d'écart.
4 ans d'écart, ouais. 4 ans et 6 ans d'écart avec Djokovic.
Il y a 5 ans avec Federer et 7 avec Djokovic. Donc potentiellement, Djokovic peut jouer s'il s'arrête au même âge.
Il y a 15 grands chelems, Djokovic.
Des années plus. Il peut jouer 30 grands chelems.
Mais il faut se rendre compte de quelque chose. Souvenez-vous, Pete Sampras, quand il gagne 14 titres du grand chelem, on dit ça sera jamais battu. Là, il y a 3 joueurs qui ont battu le record de Pete Sampras. C'est quand même phénoménal. 15 grands chelems pour Djokovic, 17 pour Nadal, dont 11 à Roland-Garros, et 20 pour Roger Federer. Roger Federer, il dispute là son 78e grand chelem. Il en a remporté 20. Donc en fait, en moyenne, c'est un grand chelem par an.
Quelle est la part, mais là je m'adresse aussi bien à France Télévisions qu'à France Inter, quelle est la part d'intérêt pour vous entre que les légendes soient au rendez-vous ou qu'une surprise vienne casser justement une légende parce que les records, parce que les stars sont faites pour être battues aussi.
Non, on a envie que les gens aient tous envie de voir Roger Federer au moins en demi-finale. Évidemment, tout le monde attend ce choc frontal avec Rafael Nadal, évidemment. Et tout le monde attend Djokovic en finale, soit contre Nadal, soit contre Federer. Dans tous les cas, ce sera merveilleux. Mais
ou un Français aussi.
Allez,
vous y croyez sincèrement?
Il en reste deux.
Non, je suis très objectif. Je crois que aujourd'hui, c'est compliqué pour les joueurs français. Alors, j'espère de tout cœur que Benoît va s'imposer aujourd'hui. Et il jouerait Rafael Nadal derrière. Il serait très, très compliqué, à mon sens.
Le tournoi de Roland-Garros, on l'a constaté hier avec Tsitsipas contre Wawrinka, est le dernier tournoi du Grand Chelem à avoir les deux jeux au cinquième set, en tout cas.
Ouais, réglementairement, oui.
On peut gagner, enfin, on gagne qu'avec deux jeux d'écart et pas de tie-break.
C'est vrai.
Chaque tournoi a son règlement parce que
ça a évolué, ouais.
C'est comme si au football, on disait, chez nous, on peut jouer 110 minutes. D'abord, c'est 90.
Au cinquième set, à l'US Open, à Wimbledon et à Melbourne, il y a un tie-break au cinquième set.
Sauf à Wimbledon.
Ça a changé, parce que c'est à 12 partout.
Donc, ils considèrent qu'on fait un set en plus.
À Wimbledon, il y a 12 partout.
Ça devient simple, hein, tout ça. Ouais,
c'est-à-dire que le record absolu de Nicolas Mahut ne sera donc jamais battu face à John Isner.
À part à Roland-Garros. Comment se fait-il que chaque tournoi ait son règlement? C'est ça que je trouve bizarre, moi. Pourquoi il n'y a pas un règlement?
Ils ont chacun leur règlement. C'est le comité des grands.
Personne ne discute.
Personne ne discute.
Moi, je ne suis pas pour le tie-break dans un cinquième, parce que c'est un peu la loterie quand même, et on a joué pendant 5 heures pour que sur un point ou deux...
Si tu mets le tie-break dans les premiers sets, pourquoi tu ne le mets pas dans le dernier?
Parce que justement, là, ça devient tellement mental, quoi. Il faut tenir, et on peut avoir des matchs à rallonge qui écrivent l'histoire aussi. Maintenant, c'est vrai qu'il faut que faire des règles qui font en sorte que tout aille plus vite. Et finalement, je trouve, prenons quand même notre temps, c'est bien. Quoi.
Vous aviez quelque chose à nous dire sur Mikael Jodra?
Ah oui, non, c'est pas bien ça.
C'est simplement, mais vous avez parlé tout à l'heure de l'histoire de Ljubicic, mais moi j'en ai une personnelle avec lui. C'est pour montrer que ce garçon est fou, en fait, complètement dingue.
Ah mais moi je l'adore.
Mais c'est pour ça qu'on l'adore, justement. C'est en 2008, début janvier, il est à Adélaïde, il se qualifie pour les demi-finales du tournoi. Et puis à ce moment-là, au mois de janvier, il n'y a pas beaucoup d'actualité. Donc on se dit, bon, je vais téléphoner à Mikael pour avoir une interview, une belle performance, l'Open d'Australie dans 15 jours, tout se présente bien pour Mikael Jodra. Je l'appelle, avec le décalage horaire, il est en train de dîner. Je dis, Mika, il faudrait qu'on fasse une interview parce que tu t'es qualifié pour les demi-finales. Il me dit, ok, pas de problème. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Pour moi, dans mon esprit, il avait battu Leighton Hewitt.
Qui était numéro 1 mondial. Alors que c'est
pas, pas du tout, c'était Joe Wilfried, son gars, qui l'avait battu. Mais dans mon esprit, c'était lui. Je commence l'interview. Mika, exceptionnel, victoire contre Leighton Hewitt, match fabuleux. C'est encourageant pour l'Open d'Australie. Merveilleux. J'ai fait un match extraordinaire.
Là, je gonfle le truc.
J'ai fait un match extraordinaire
chez lui. Plein puis cette balle de match, coup entre les jambes. Franchement, c'est incroyable. Et là, j'en fais une tartine, des tartines, des tartines.
Et je relance.
Et il relance, il relance. Et là, je mets au parleur devant mon entraîneur. Il me dit, mais t'es complètement cinglé.
Et il me fait le match qu'il n'a pas joué. Donc. Il me fait le match. Je relance. Et en plus, le public australien, devant le public australien. Ouais, mais j'étais motivé à fond.
C'était bon. Je ramène des anecdotes, mais là, je me lâche.
J'ai une interview, mais merveilleuse. Je dis, oh putain, Mika, merci, c'est super, merci. Je te rappelle si tu te qualifies pour la finale. Il gagne le tournoi, d'ailleurs. Je te rappelle si, il me dit, ok, pas de problème, tu peux me rappeler, il n'y a pas de problème. Moi, content avec mon interview, hop, on se rapproche du déjeuner, je déjeune, etc. Je commence le montage vers 14h. Ouais. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? J'ai fait une interview qui ne servait donc à rien. Mais elle était tellement belle que je l'ai gardée.
Et jamais diffusée.
Mais jamais diffusée, c'était pas les Tony Witt. Il avait battu Benjamin Becker.
Mais grâce à vous, il s'est projeté dans la victoire, dans une victoire exceptionnelle. Et comme disait Justine,
il a fait la visualisation positive.
Voilà. Justine, je travaillais avec Justine à l'époque.
Et pour le final de cette histoire, je lui envoie un texto. J'ai dit, t'es mon génie. Sincèrement, t'es le numéro un mondial. Et il me répond, mais t'es un pipeau, Abgral. Et depuis, à chaque fois qu'on se voit, il me dit bonjour, pipeau. Alors, ça fait 11 ans.
D'où le surnom. Très bien, je comprends mieux. En tout cas, ça ne m'enlèvera pas le plaisir qu'on a d'écouter aussi Fabrice Abgral nous parler de tennis sur les antennes d'Inter et France Info. Merci Fabrice d'être resté.
C'est un plaisir.
Dans cette deuxième partie, on continuera évidemment de parler de Roland Garros et pas que à la télévision, mais aussi dans la manière dont ça résonne encore dans les vies et dans les membres de Justine Hénin, de Mickaël Laura, parce qu'une fois qu'on a touché à ça, on peut pas s'en sortir. On le sent bien, ça vous démange et vous replongez très rapidement dans toutes ces aventures. Mais d'abord, voici Tanguy Pastureau. Tanguy, vous nous parlez de Rocketman.
Oui, Rocketman, ce n'est pas un film sur un super-héros vegan en forme de roquette, hein, la salade que mange Émeric Caron en se caressant l'épi de maïs. Ça pourrait être chouette d'ailleurs, hein, on aurait Rocketman qui débarquerait chez le boucher en hurlant « Je vais te crever Gilbert pour tout ce que t'as fait au porc !» avant d'ajouter, puisque le super-héros vegan aurait de l'humour, « Je vais te coller une patate !» Non, c'est juste le biopic d'Elton John, le chanteur sur la tête de qui est venu mourir une moufette il y a 15 ans, et qui a composé des bijoux pop qui feraient aimer le piano à un sourd. Donc là, on se dit méfiance. Déjà le biopic de Freddie Mercury de Queen, les mecs avaient occulté le fait qu'il organisait dans sa villa des fiestas de 87 heures où il remplissait des gens tandis qu'il se remplissait son nez à lui. À Bricot Dépôt, il aurait été classé dans les enduits de rebouchage. Or, au visionnage du film, j'ai cru qu'on allait le voir se lancer dans la confection de coussins à broder avec sa nièce. Mais apparemment, Rocketman est plus fidèle à la réalité. On y voit Elton John en prise avec ses addictions. Cocaïne, alcool, implant capillaire. Il y a une scène où il sniffe la tête de Michel Fugain. Et il y a aussi du sexe gay. Car le saviez-vous, Elton John est gay. Mais il a tenu à avoir une vie pourrie quand même. Donc il a adopté deux enfants conçus par mère porteuse. Alors pour un homme, une mère porteuse, ça consiste à regarder une femme porter un gosse pendant 9 mois en se trouvant aussi utile qu'un évangéliste devant une boîte du Cap d'Agde. Donc c'est la même chose que quand on est en couple hétérosexuel, sauf qu'ensuite on n'a pas à se taper des années de mensonges quand elle nous dit tu trouves pas que mon corps a changé? Non non, on dit au revoir à la dame, on prend le môme et ciao. On n'a pas à la voir un jour en train de prendre du plaisir à regarder télé matin et donc on garde espoir en l'humanité. Bref, Elton John a deux enfants, un mari, David Furnish, il a une vie moins rock'n'roll qu'Alain Duhamel. Mais avant, dans les 70s, c'était pas comme ça. Le Gus s'est mis dans le cornet tout ce qu'il était possible d'y mettre. Ses narines, c'était à la ligne 13 du métro à l'heure de pointe mais sans les odeurs des selles. Et malgré un physique banal, il couchait à droite à gauche grâce au succès. C'est la clé d'une vie sexuelle démente. D'où le fait que Florian Philippot, par exemple, est toujours vierge. Hein, Nagui peut nous en parler. Ah bon? Ça fait 30 ans qu'il a du succès. Et bah là, même si une femme nue qui a fait un BTS de fakir vient devant lui se mettre le haut de la tête entre les cuisses en se léchant elle-même et lui dira « Bébé, t'es gentil, montre-moi quelque chose que je ne connais pas ». Bref, un biopic sur une pop star, il y a forcément du sexe. Parce que c'est pour ça qu'on devient pop star. Prince, qui faisait 1m57 avec un duvet de moustache, s'il avait pas fait Purple Rain, même à CTLM, on le mettait dans les bureaux derrière pour ne pas que les clients le voient. Mais en Russie, le pays du bœuf Stroganov et de Vladimir Poutine pour les les distinguer. Poutine, c'est celui qui vient sans sauce. Le sexe gay, c'est hors de question. Hors de question. On peut montrer des meurtres, des scènes d'apocalypse. Shakira qui twerk contre la bouteille de bière d'un punk à chien. Mais un bisou entre mecs. Le pouvoir russe est tétanisé. La propagande homosexuelle, comme ils appellent ça, y est interdite. Parce qu'ils pensent que ça marche comme les pubs. Hein, vous voyez la pub Vasa, vous avez envie d'un petit pain suédois. Alors même que c'est dégueulasse. Aucune mère n'a obtenu de sa famille un ah de joie après avoir prononcé la phrase « Les enfants, pour le goûter, j'ai des petits pains suédois ». Non, ça donne des envies de meurtre. Émile Louis, dans sa jeunesse, fréquentait beaucoup le rayon petit pain suédois des centres Leclerc de Lyon.
Ouais, enfin, l'homosexualité n'a rien à voir avec tout ça.
Ah bah non, moi si demain je vois Rocketman, je suis sûr à 99% de pas devenir gay. Hein, je garde 1% de possibilité de le devenir parce que je sais que la vie est surprenante.
Eh oui. Hein,
moi qui aime la musique, je me suis surpris une fois à fredonner un titre de Zaz. Mais le pouvoir russe, je sais pas. Hein, ce sont des gens qui se disent un smack d'Elton John à un ami, tous les gonzes vont se dessaper dans la salle de ciné, faire un trou dans leur boîte de pop-corn, y glisser leur sexe et dire à leur voisin « Je t'en prie, accorde-toi donc une pause sucrée ». Et par peur, ils ont coupé 5 minutes du film, dont un baiser entre Elton John et son manager John Red, le seul homme dont le nom est déjà une promesse, mais aussi une photo dans le générique de fin d'Elton John et son mari heureux, hein, parce que le distributeur local du film a trouvé ça hors de propos. Si on avait vu Elton en train d'hurler à David Furnish « Pauvre con, c'est moi qui fais tout à la maison, du coup je me mets à l'hétérosexualité, je vais me faire Taylor Swift, ou tout du moins sa grand-mère », bah là ça passait nickel. Le problème c'est que couper ne serait-ce qu'une seconde d'un film, ça s'appelle de la censure. Dans ce cas, Ibiza en 92, ils auraient pu virer les scènes de Basic Instinct où on voit le pic à glace en se disant que ça allait causer des torts au métier de la night. D'autant que si on se met à expurger de tous les biopics les scènes gays, le jour où on fait un film sur Boy George, il va rester 4 minutes parce que le type a deux tubes qui se battent en duel. On n'est pas sur une carrière à l'Elton John. Donc Elton John, bien sûr, est furieux. Hein, passer outre le fait qu'il est gay, bah, c'est passer à côté de sa vie. Or, un biopic, même romancé, c'est censé nous raconter une existence, un être. S'il y a le biopic de Depardieu, on va le voir quoi ? Boire un Fanta à l'orange ? Hein, et le parcours de Lucchini dans un film muet ? Bon, enfin, soyons sérieux, quoi.
Merci, Tanguy Pascal.
La bande originale, Mehdi, sur France Inter.
À la télévision, donc, et puis pour...
Et super bien réalisé, parce que c'est vrai que c'est hyper important. Moi, j'adore regarder le tennis.
On parle de quoi ?
De Roland Garros.
Ah, tu savais que j'allais dire ça ?
Ouais.
Ok.
Ouais, parce que quand je vous vois, Justine Hénin, je suis hyper émue parce que je vous ai suivi tellement de temps à la télévision et comme je pouvais pas la Roland Garros.
Il y a pas si longtemps non plus. Hein.
Ouais, mais j'étais plus jeune.
Morte, hein. Donc.
Bah, c'est vrai. C'est vrai.
Et quand vous étiez vivante, c'était.
Et je trouve qu'il y a un vrai progrès technique, technologique qui a été vraiment effectué en termes de retransmission des matchs, la façon dont on voit les joueurs, les caméras comme ça qui descendent. Vraiment qui plonge sur le court, là, les sortes de spider.
Spider, ouais, c'est ça.
Et c'est impressionnant. C'est hyper impressionnant.
On est vraiment au cœur de ce qui s'y passe,
ouais,
en fait.
Et pour le spectateur, c'est hyper agréable.
Les ralentis, ouais. la vitesse à laquelle c'est fait. Et puis moi, je trouve que votre équipe de consultants, et puis même si vous n'êtes pas amis dans la vie, en tout cas, il y a des bonnes vibrations qui passent entre vous.
On s'entend bien, hein. S'entend vraiment bien. Et
c'est
voilà,
complètement. Non, mais Fabrice Santoro et Michael Yodra, je savais déjà, tous les deux, je ne savais pas, mais je suis heureux de l'apprendre, mais ça se ressent. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la prétention de devenir votre ami, mais on n'est pas non plus exclu par un discours de spécialiste qui évoquerait des choses entre eux sur lesquelles on serait totalement paumé, ce que disait Agnès. Et on sait tout à l'heure. Non, mais sincèrement, vous vous mettez à notre niveau, vous expliquez clairement les choses. Et la proximité que vous pouvez avoir aussi avec les champions se ressent, parce que je pense que vous obtenez plus d'eux quand ils viennent en plateau, en interview.
Oui,
parce
il y a beaucoup. Hein,
ils savent de quoi vous parlez.
C'est vrai, t'as cette force relationnelle avec les.
Non,
les
mais ouais,
aussi,
effectivement, voilà, je travaille avec certains d'entre eux, notamment pour ma deuxième activité aujourd'hui. Mais donc voilà, donc il y a toujours un lien qui est là. Je vais au vestiaire aussi prendre le café le matin.
Donc,
je croise tout le monde. Ouais, j'ai le droit parce que je joue le tournoi des vieux.
Non, mais donc, moi, je peux plus rentrer.
Ouais, non, moi j'ai un badge joueur encore parce que je joue le tournoi des légendes.
D'accord.
Qui commence demain.
D'accord.
Donc, du coup, j'ai accès au vestiaire.
D'accord.
Non, mais t'as pas accès au vestiaire en tant qu'ancienne championne.
Non, et je veux pas jouer les légendes, donc.
Pourquoi ?
Pas assez en forme. Moi, je sais que je suis une exigeante, hein, donc.
Ah, elle est compétitrice.
Ouais.
Pour revenir là-dessus, oui. En plateau, c'est vrai qu'on obtient un peu plus, je pense, des joueurs aussi dans notre parce que et c'est là où on parlait de la limite justement tout à l'heure. Elle est sensible. On doit vraiment sentir les choses pour savoir jusqu'où on peut aller. Ça, les joueurs apprécient. S'ils apprécient, ils reviennent et on est tous gagnants.
Ça marche dans les deux sens. Hein. Quand à un moment donné, on me pousse à aller chercher un joueur, je leur dis non, c'est pas le moment, j'irai pas. Oui. Parce que je dois respecter aussi. Je sais ce que c'est quand t'as une défaite ou quand à un moment donné tu dois faire de la récupération. Je vais pas aller voir le joueur pour lui dire voilà, viens sur la terrasse.
Et puis il y a des clins d'œil aussi, je pense aux enfants qui sont venus tout à l'heure pendant les infos faire un câlin à Justine Hénin sur le court. Ça vous est arrivé ça aussi?
Ouais, bah
votre fils qui était venu faire un câlin.
De plus formidable de partager ça avec sa famille, avec les personnes qu'on aime le plus, nos enfants. Et j'ai eu la chance d'avoir des enfants très jeunes, et donc du coup surtout pour mon fils qui adorait, qui m'a rejoint plusieurs fois sur le terrain, notamment quand j'avais battu Djokovic à Bercy en quart de finale. C'est vrai que c'était un moment top parce que ça tombait pendant les vacances scolaires et que voilà, j'avais toute ma famille, mes amis. C'est des moments comme ça qui sont indescriptibles.
Ouais. Il ne connaîtra jamais ça évidemment puisqu'il n'est pas le père de ses propres enfants. Voici Daniel Morin.
Bon, vous l'avez tous entendu, pas la connerie de Nagui, mais finalement Laurent Wauquiez m'a écouté, il a démissionné.
C'est vrai, c'est toi qui l'avais dit le premier.
C'était plus prudent, c'est clair. Avec Gérard Larcher en embuscade, prêt à lui mettre une torgnole, fallait pas prendre de risque. 1m75, 160 kilos, des mains larges comme des grilles d'égout, Larcher te met une baffe dans l'oreille gauche, t'as l'œil droit qui gicle de l'orbite. Tu laisses facilement molaire, prémolaire et canine. Alors l'annonce de la démission a des effets. Dans la tête de tous les adhérents du Parti Républicain, on entend la même chose. Le vide. Que faire? Ils n'en ont aucune idée. Ils voulaient tous son départ, mais maintenant que c'est fait, quoi faire? Ils savent pas. En plus, faut tenir encore un mois avant les vacances. Il va falloir prendre des décisions et là, ça fait mal. Non, là, ils sont tous hyper mal avec Wauquiez. Au moins, il y avait quelqu'un à sacrifier. Mais là, maintenant qu'il est parti... Oui, une petite idée, Christian Jacob? Oui, ok. On laisse tomber. Non, ils sont dans la merde, ils sont perdus. Et là, le problème, c'est que les adhérents, ceux qui votent, sont perdus eux aussi. Et les électeurs, les Républicains, quand ils sont perdus, il y en a à qui ça donne des idées. Ouais. Dans la tête du Rassemblement National, on entend depuis hier soir une petite musique très claire. Eh oui, Marine Le Pen, depuis les 8,5% des Républicains aux Européennes, elle appelle les électeurs déçus. Et depuis hier, Marion Maréchal, elle aussi, elle les appelle. Ils n'ont jamais été autant appelés, ces pauvres gens. Alors là, avec le patron qui s'en va, c'est le boulevard. J'attends l'annonce officielle avec impatience.
Oyez, oyez, patriotes de France, je m'adresse à vous les déçus du parti Les Républicains. Oui, vous qui avez été dupes d'un parti mou qui de façon pathétique penchait à s'en casser la gueule de notre côté. Vous l'avez entendu hier depuis votre poste de télévision, Laurent Wauquiez a jeté l'éponge. Ah, il est beau le courage de celui qui se prétendait proche de Civitas et de toutes nos belles valeurs de non-mixité. Un petit essoufflement et hop, il abandonne. Force est de constater qu'il n'est pas fait du bois dont on fait les glaives. Laissez tomber tous ces pantins qui mériteraient, comme vous, de figurer dans la liste de Copy Comics pour avoir volé nos idées sans pour autant réussir à mobiliser. Ah là là, tes valeurs sont les nôtres, camarades républicains. Viens rejoindre les troupes de nos Templiers. Viens te joindre à la grande croisade pour le pouvoir qui nous est promis en 2022. Et si tu hésites encore, amis républicains, allonge-toi, détends-toi, respire lentement et écoute ce message.
Aie confiance, crois en moi, en Marine, aie confiance, la victoire, je la vois, elle est là, aie confiance.
Ça fait peur.
Nom de Dieu, vous avez raison Nagui, ça fout les jetons.
Ouais.
Même à moi j'ai peur. Et pourtant, c'était ma chronique. Allez, faites de bon rêve quand même.
Merci. Avec Nagui.
Roland Garros sur les antennes du service public à la radio et à la télévision et sur France Télévisions, Justine Hénin et Michaël Liodra portent leur éclairage et leurs commentaires. Je voulais évoquer avec vous l'association Justine for Kids.
C'est gentil.
C'est la moindre des choses que vous avez créée il y a une dizaine d'années maintenant.
Il y a 10 ans, oui.
Le but étant d'aider les enfants malades.
Malades et handicapés en Belgique.
Ouais, de quelle manière?
En leur offrant des moments de répit, tout simplement. Moi, j'ai perdu ma maman quand j'étais très jeune et sa maladie m'a beaucoup marquée. J'ai toujours aimé les enfants. Et donc, je trouve qu'on a beaucoup de chance et on organise des voyages thérapeutiques, des activités récréatives. Et là, on a le grand projet de construire une maison de répit en Belgique pour les enfants qui sortent des longues hospitalisations, retrouver leur famille dans un lieu de vacances où leur sécurité médicale sera garantie. Donc, voilà, c'est vraiment.
Il y a un site internet sur lequel on peut se renseigner. renseigner, voire vous aider.
JustineForKids.be, je vous remercie.
.be, ouais. C'est normal. Ouais. Et c'est là où on voit la gentillesse et la générosité de Justine. Quant à Michael, vous, c'est de l'alcool. vous êtes installé à Bordeaux avec Camille, votre douce et tendre, et vous avez découvert cette passion du vin. C'est-à-dire, vous êtes quoi? Consultant en vin? Vous êtes caviste?
Ouais, non, je constitue des caves pour des sportifs notamment. Puis j'ai un club de vin, voilà, où je fais des offres de vin bien ciblées à des passionnés de vin, avant tout.
La cave clandestine, elle porte bien son nom.
Hein. Exactement.
Merci mille fois d'avoir trouvé le temps de venir à ce micro.
Merci et
de
renforcer
votre connaissance. Demain, Camille Chamou et Frédéric Bélier Garcia seront nos invités pour parler théâtre. Et tout de suite, ce sont les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonne journée sur Inter.